ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est 19h02, l'heure du Canu Info du vendredi. On va commencer ce soir avec une interview d'une militante allemande de la Fondation des Femmes Libres du Rojava.
Et puis après, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé à Lyon cette semaine, notamment sur l'occupation du collège Truffaut mardi.
Et jeudi, c'était les canons à eau sur la place Bellecour.
Puis on fera un petit résumé non exhaustif des manifs et actions de blocage en France cette semaine.
Ensuite, on vous expliquera comment faire grève quand on est isolé.
Puis on reviendra un peu sur le traitement de la manif des flics à Paris, le traitement médiatique bien sûr.
Et plus globalement, toujours sur les médias, on se demandera comment les luttes sont présentées et comment on les visibilise.
Et ta-ta-ta-ta-ta-ta, on part dans la générique internationale au Brésil.
Et puis ensuite, on aura, comme tous les vendredis, des brèves du Kurdistan.
Pour finir par le traditionnel agenda du Canu Info.
On commence donc par l'entretien de la militante kurde.
Yes, I'm Rosa. I'm coming from the Foundation of Free Women in Rojava.
Donc je suis Rosa. Je viens de la Fondation des Femmes Libres du Rojava.
I am here in Lyon to meet with different people and to introduce the revolution of Rojava, which we call as a revolution the spring of women.
Donc je suis là pour rencontrer plusieurs personnes et pour expliquer un peu la révolution qui se passe au Rojava et que nous appelons le printemps des femmes.
Rojava is a place where women are organized from the communes of the councils and also in equality in all decision-making positions.
Donc le Rojava est un endroit où les femmes sont organisées dans les communes, les conseils des villes et les cantons. Et partout, il y a l'égalité des genres.
In this surrounding, I also lived one year in Rojava, which is North Syria.
Et j'ai vécu un an au Rojava, qui est le nord de la Syrie.
It is a place where we organize each other with women together in different ethnics and religions.
C'est un endroit où nous nous organisons entre femmes avec plusieurs ethnies et plusieurs religions.
We open up a lot of projects in which women can take their place and which comes from the ideas of women.
On a mis en place plusieurs projets dans lesquels les femmes peuvent avoir leur place.
Rojava is living a complete embargo at the moment and there's an urgent need for support. All borders of Rojava are closed, so no journalists, no activists, no humanitarian support can go to Rojava.
En ce moment, il y a un gros problème à Rojava qui est le problème des frontières. Toutes les frontières sont fermées, donc aucun journaliste, aucun activiste, les médicaments, la nourriture, rien ne peut passer et rentrer dans le Rojava.
And to also not allow or to stop every self-organization process of people. So there's a big attack by Turkey on Kurdish people in the north, in Rojava, by isolating Rojava. And this has to be something that we also put on the agenda in Europe, everywhere, as left.
Et du coup, votre fondation, comment est-ce qu'on peut la soutenir, la retrouver, comment on peut vous aider?
So how is it possible to support your organization, your foundation?
Yeah, there are different possibilities to support our foundation, which would be at one, which is also very urgent, to collect money for the project.
Donc il y a plusieurs façons de soutenir notre fondation. Tout d'abord, c'est très urgent de récolter des fonds pour nos projets.
The struggle for the border is a very big support for the foundation because we want to get delegates and also people who would like to share their knowledge with us in Rojava, into Rojava, and we cannot at the moment.
La lutte pour réouvrir la frontière est très importante parce que nous avons besoin qu'il y ait des délégués de l'étranger et surtout des gens qui apportent leurs connaissances pour former les gens en Rojava. Et en ce moment, ce n'est pas possible.
And of course, there's the need to collect things which can be transported to Rojava when the border is open, which would be medicines, medical technique, and these kind of things.
Et naturellement, on a besoin qu'on ramasse un peu tout ce qu'on pourrait amener au Rojava une fois que les frontières seront ouvertes, comme par exemple des médicaments, des équipements, etc. D'action.
Et du coup, pour retrouver toutes ces questions-là, vous faites une conférence ce soir. Ça se passe où et à quelle heure ?
Ça, je peux le dire, peut-être. Ouais. La conférence sera au Palais du Travail de Villeurbanne à 19h30. Ouais. Et il y aura, en fait, c'est une conférence qui a été co-organisée par l'association Amitié Kurde de Lyon, France Kurdistan et l'association, le Centre culturel Mésopotamie. Les trois associations commenceront la conférence en se présentant. Puis moi, qui suis Céline Véry, journaliste, et ma cadreuse Magali Magnan, allons présenter un reportage que nous avons tourné pour Euronews sur un des projets de la Fondation des Femmes Libres du Rojava, qui est un projet de école maternelle pour les enfants de Kamishlo. Et ensuite, Rosa parlera de justement du Rojava, du système d'autodétermination du Rojava et des projets de sa fondation.
Et voilà, vous pourrez retrouver tous ces sujets ce soir même au Palais du Travail à Villeurbanne avec une conférence qui débutera à 19h30. Donc vite, sautez sur votre vélo, votre skateboard ou avec votre carte TCL dans la poche. Et c'est parti du coup pour le local.
La ZAD et bien d'autres, maintenant dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici quand il s'agit de la fermeture de ces...
En bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. On chanterait.
Le mardi 17 mai s'annonçait comme une nouvelle grande journée de mobilisation contre la loi Travail et son monde. À Lyon, dans la manif qui est partie des Brotteaux, un mot d'ordre tourne dans les cortèges syndicaux entre les jeunes, les précaires et les autres travailleuses et travailleurs. Après la manif qui finit place Bellecour, dit le mot, retrouvons-nous pour tenter d'occuper un lieu comme les Rennais ont pu le faire au début du mois de mai. Il s'agit de donner au mouvement les moyens de créer de nouvelles solidarités, de mieux se connaître pour mieux s'organiser dans les actions à venir. Bref, de continuer l'élan du début. 2 heures après la fin de la manif, plus de 300 personnes convergent vers les pentes de la Croix-Rousse et rentrent facilement dans le collège Truffaut, situé dans le quartier, et collège abandonné depuis plus de 3 ans, tandis que tous les hivers, les murs sont chauffés. Les occupants se retrouvent vite dans la grande cour du collège et on annonce la tenue d'une AG interlutte pour 18h. En attendant, un tableau est vite descendu des salles de classe pour y noter les ordres du jour. Une installation poétique prend forme dans la cour pendant que d'autres écrivent sur les murs ou jouent au foot. Les issues sont également renforcées pour éviter l'invasion du collège de la grève, c'est son nouveau nom, par les forces de police.
Voilà, là, l'école de la grève. Hein.
Des banderoles sont dépliées en façade, annonçant l'occupation, son sens et l'ouverture à chacune et chacun qui veut se joindre à la lutte. Quand l'AG commence à 18h, près de 200 personnes sont regroupées en cercle dans la cour. L'écoute est plutôt bonne, les conversations ordonnées et aussi plutôt intéressantes. Elles ont toutes comme base commune la volonté d'accoucher de finalités pratiques. Comment s'organiser face à la manifestation de police prévue demain devant la préfecture? Qui a des liens avec les syndicalistes qui ont annoncé des piquets de grève dans divers sites de l'agglo? Qui pourra s'y rendre? Comment soutenir les actions de blocage portées dans certaines boîtes, etc., etc. On parle également de la communication avec les autres médias, des risques d'expulsion du bâtiment, des comportements qu'il faudra avoir dans le cas d'une pareille entrée de la police dans la nouvelle école de la grève. Quand la geste disperse, les unes et les autres découvrent vite qu'en haut du lycée, qui jouxte la cour du collège, des flics filment ou nous prennent en photo. Une petite panique gagne la cour, entretenue par les rumeurs des uns et des autres sur ce qui se passerait à l'extérieur. Les issues sont bloquées pour éviter les assauts policiers. Certaines et certains, gagnés par la peur, commencent à se demander ce qu'ils font là et comment ils vont pouvoir sortir avant de se faire pincer. Plusieurs prises de parole bienvenues rappellent les comportements à adopter et rassurent l'Assemblée. La tension retombe d'un cran. C'est le moment qu'on choisit pour servir l'excellent couscous végétarien. Une échelle disposée à côté d'une fenêtre permet de rentrer et sortir plus facilement de l'établissement. Nous voilà toutes et tous rassurés. La police n'est plus devant. L'école de la grève, si assaut il doit avoir, il n'aura sans doute pas lieu, avant demain matin. Certaines et certains, fatigués de cette longue journée, choisissent de partir et sont remplacés par d'autres qui, de la rue, entrent par la fenêtre rejoignant des amis ou visitant les lieux trop vastes pour être contrôlés de ceux qui sentent depuis le début d'après-midi qu'il y a ici une belle carte à jouer pour donner un nouvel élan à nos luttes. Beaucoup choisissent de dormir car il faudra se lever tôt demain matin. Le lendemain, au petit matin, j'allume mon ordinateur devant mon café. J'apprends la triste nouvelle par un communiqué laconique posté sur Rebellion. Un incendie s'est déclaré pendant la nuit. Les pompiers ont été tout de suite appelés et tout le monde a pu être évacué sain et sauf. Beau gâchis. La presse locale relaie un peu plus tard l'information. Le Progrès en tête, annonçant qu'il y aurait eu 2 départs de feu dans les sous-sols. Feu rapidement éteint. Une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. À ce jour, on n'en sait pas beaucoup plus. On peut juste se dire que c'est une belle initiative qui n'aura duré que 12 heures. Le jour même, mercredi, les croque-morts de la métropole de Lyon, présidés par Gégé Collomb, ne perdent pas de temps pour dégainer. Par communiqué de presse largement diffusé dans toute la presse locale et aussi les torchons gratuits des transports en commun, ils annoncent qu'ils ont bien réfléchi au devenir du collège Truffaut, vide depuis plus de 3 ans. Gégé visite même le collège devant les caméras de France 3 et dénonce les squatteurs. Dans le 20 minutes distribué dans le métro, on peut lire, je cite, « Ce mercredi, la métropole de Lyon a annoncé qu'un appel à projet allait être lancé d'ici à la fin du mois de mai à destination d'opérateurs privés ou publics, afin de reconvertir cet ancien établissement scolaire en un lieu attractif et de proximité. » Je cite toujours, nous voulons transformer ce site et lui donner une valeur à la fois pour l'arrondissement, mais également pour nos concitoyens en leur permettant de retrouver un usage des lieux, a indiqué Michel Lefou, vice-président de la métropole en charge de l'urbaniste, qui ajoute un peu plus loin, nous souhaitons qu'il abrite une auberge de jeunesse revisitée, comme on peut en voir dans différents pays d'Europe. Et David Kimfield, en charge de l'économie, de poursuivre. Je cite, rien n'est décidé. Nous attendons les propositions des opérateurs, mais plusieurs associations du quartier ont déjà travaillé sur différents projets. Vraiment réactifs, les communicants de la métropole qui, après une occupation qui finit en nœud de boudin, se sont obligés de nous la faire version jeune économie solidaire. Pathétique là aussi quand on sait qu'un grand bâtiment public voisin du collège Truffaut, l'ancienne école des Beaux-Arts située rue Néré, vient d'être vendu au Crédit Agricole pour une bouchée de pain, 3,5 millions d'euros. Le Crédit Agricole devient ainsi le promoteur d'un projet mêlant logement et commerce, promoteur qui pourra revendre 10 fois plus cher ce qui lui a été donné pour une bouchée de pain. C'est ça le partenariat public-privé à la sauce GG. Lui qui saluait cette semaine l'audace d'Emmanuel Macron et le sang neuf qu'il apporte. Ah vraiment, quel plaisir d'habiter le Grand Lyon.
Grand Lyon, je te dis... Des quenelles tolérantes, des cervelles de canuts, la biennale quotidienne, la symbiose dans la rue, le sourire des Lyonnais dans les rues de Saint-Jean, la grandeur de Fourvière dans le cœur des enfants, le grand lion qui jaillit, qui ruisselle la chance, la beauté politique qui transcende la France, les soirées endiablées des écoles de commerce, même un jour à Pardieu j'ai croisé Julien Lepers, et je marche jusqu'à Perrache, c'est joli les immeubles, il y a des appartements avec de jolis meubles, les gens aussi sont jolis, ils habitent Grand Lyon, un jeune couple sympathique avec un petit garçon. Les lumières qui dansent en plein mois de décembre, la misère culturelle est vite réduite en cendres. Je me sens joyeux, tous les gens sont heureux, il y a des salles de spectacle vraiment de qualité. Ah vraiment, quel bonheur d'habiter le Grand Lyon. Communauté de communes du grand Gérard Collomb. Ah vraiment, quel bonheur d'habiter le Grand Lyon. Communauté de communes du grand Gérard Collomb. Communauté de communes, Gérard. Ravage, colon. Ravage, colon. L'ouverture sur le monde, la richesse des parois, monument historique qui inspire la foi, en l'avenir céleste, dans le cœur des bourgeois, des bobos, des bibis, la mixité est jolie, des gyropodes, des colos, des voitures, des vélos, il y en a pour tous les goûts de la musique électro, des câlins gratuits sur la place des terreaux, une véritable osmose entre homo et hétéro, des ateliers d'artistes qui fleurissent à Croix-Rousse, la police est gentille, elle est loin d'être farouche, les agents municipaux, ils sont vraiment mignons, je suis trop trop content d'habiter le Grand Lyon. J'aime flâner en errance, en pleine itinérance, de Gerland à Bellecour et même à Confluence. Capitale de la Gaule, j'aime le Rhône et la Saône, j'aime l'art contemporain, je suis fan de l'OL. Ah vraiment, quel bonheur d'habiter le Grand Lyon. Communauté de communes du grand Gérard Collomb. Ah vraiment, quel bonheur d'habiter le Grand Lyon. Communauté de communes du grand Gérard Collomb. Communauté de communes, Ravage Collomb. Ravage Collomb. Gérard Collomb. MUDA, exact. Luca la prod. Ouais. 2015, mixdone.net, Virtual Fancy System.
C'était les Chevals Hongrois, le titre Le Grand Lyon, qui sont également les chroniqueurs de l'émission Intrinsèque sur Radio Canu, bien sûr.
Et voilà, super, super. Après mardi à Lyon, on arrive à jeudi. Et on avait envie de parler un petit peu de jeudi parce qu'on assiste un petit peu en ce moment à une nouvelle échelle de violence dans les techniques de maintien de l'ordre. Donc avant, si c'était les CRS et leurs petits copains gendarmes mobiles qui étaient en première ligne des luttes anti-émeutes, c'est maintenant une autre logique qui est à l'œuvre. Lentement, ça a été un petit peu la spécificité française, c'était de quadriller, d'empêcher, de tuer dans l'œuf toute tentative de débordement en tenant à distance avec les gaz lacrymogènes, en mettant des barrières anti-émeutes un peu de partout et ensuite en matraquant bien tranquillement une fois que plus personne peut regarder. Mais en ce moment, c'est par la peur effective de coups et de blessures et par la confrontation directe que les manifestants et les manifestantes sont réprimés. C'est plus avec des gaz, mais par les baqueux, les flashballs, les petites grenades de désencerclement. Le mouvement actuel, il y a de plus en plus de violences policières, il y a un nombre incalculable de blessés graves, et c'est par la peur vraiment de blessures graves qu'on veut nous faire rester chez nous. Ça gueule plus gentiment, c'est plus « gueule gentiment dans ton coin, de toute façon si t'essaies quoi que ce soit, je te nasse, je te parque, et ensuite je te déboîte discrètement, mais maintenant je te casse les dents dès que tu l'ouvres ou je te pète les yeux ». Et alors, petit nouveau du coup des manifestations lyonnaises, même pas si nouveau que ça, finalement, c'est le canon à eau. Alors c'est vrai que souvent les CRS le sortaient, mais d'habitude c'est plus un petit peu, voilà, c'était le truc, waouh, il y a le canon à eau quoi. Mais là, il s'en était un petit peu servi en 2010, mais là, pas de bol, ils s'en servent vraiment.
Et ça sans nous, raison. Quoi.
Et voilà, et ça nous permet de nous rendre compte un petit peu de la dangerosité de cette arme. Alors, on avait un petit peu envie de faire une autopsie de ce camion anti-émeute. On n'a pas réussi à en cramer un pour l'étudier, mais on peut avoir quand même quelques petites infos. Donc, les premiers canons à eau sont montés, les premiers canons à eau montés sur des camions sont utilisés en Allemagne au début des années 1930. Et après, ils sont largement utilisés aux États-Unis dans les années 60 pour empêcher les manifestations afro-américaines. Aujourd'hui, ils sont encore utilisés à grande échelle en Allemagne, en Belgique, dans d'autres parties de l'Europe. En France, c'est dès les grèves minières de 47 qui sont utilisées. En 68, les pompiers ils sont mobilisés aussi pour réprimer les émeutes avec leurs camions, mais pas de bol. Il y avait des pompiers parmi les manifestants qui attaquent les flics à partir des bouches à incendie. C'est le gouvernement Rocard qui réutilise à nouveau en 91 ses canons à eau contre des manifestations d'infirmières. Et ces dernières années, ben, on les a vus pendant les manifestations anti-CPE à Paris, pendant les manifestations anti-OTAN à Strasbourg en 2009. Et ils en ont fait usage pendant les manifestations en hommage à Rémi Fraisse. Donc voilà, concrètement, c'est des gros camions blindés, grillagés de partout, les versions les plus modernes. Dans le camion, il y a un opérateur qui peut faire bouger le canon avec un petit joystick, une jolie caméra infrarouge qui lui permet de bien voir, qui peut transporter 8000 litres d'eau et il peut envoyer jusqu'à 15 litres par seconde. Donc en gros, ça fait 30 bars. De pression, quoi. Donc, dans des pneus de vélo, on met à peu près 2 bars, donc faut se donner un petit peu.
J'en mets 6.
T'en mets 6, ouais, mais
c'est
ouais, parce que
les
ton vélo,
il est beau, c'est 6 bars.
Ouais.
Du coup, tu peux rappeler le chiffre qu'on convertisse en vélo
de course. Donc 30 bars. Donc 30 bars, ça fait 5 fois plus qu'un vélo de route, quand même.
Ça doit faire mal.
Autant te dire que, voilà, tu te manges ça dans la mouille. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils peuvent bien sûr aller choisir si c'est un flux continu, des petites impulsions, un jet dur, pulvérisation, un peu, voilà, comme les trucs sur les stations-service l'été pour pas avoir trop chaud, mais qui fait mal. Mais du coup, bah ouais, ça fait super mal parce que il y a vraiment, c'est une telle puissance, ça peut provoquer des fractures, ça peut provoquer des gros bleus, et en plus, ça peut surtout provoquer des hémorragies internes, des blessures d'organes dont on se rend pas compte tout de suite, mais qui peuvent provoquer la mort ou de graves complications plus tard. Donc, par exemple, là, la dernière cause en date de blessure par un canon à eau que j'ai trouvé, c'est en 2010, une personne qui a perdu complètement l'usage des yeux. Et puis alors, malin, ils peuvent rajouter des produits dans l'eau. Donc par exemple, de la teinture pour retrouver derrière les manifestants et manifestantes qui s'étaient retrouvés près des canons à eau. Ou alors bah, des petits gaz lacrymogènes dans l'eau directement. Comme ça te crame la gueule même une fois que tu prends plus l'eau. Mais alors super, ils sont en train d'inventer des camions à eau électrifiés. Donc voilà. Donc bah à Lyon, on les a vus les utiliser pendant les manifestations contre la loi de travail. Donc dès le 31 mars, déjà, il y a un monsieur de 60 ans qui s'est fait complètement déboîter, qui a fini à l'hosto à cause du canon à eau, alors qu'il passait comme ça sur la place, parce que c'est vrai qu'avec un joystick, bon bah on maîtrise pas non plus exactement ce qu'on veut faire. Et jeudi, retour du canon à eau. Alors donc bah voilà, une manifestation qui s'était déroulée dans un calme un petit peu, voilà, assez relatif, peu offensive matériellement, on va dire, avec par rapport aux autres manifestations qu'on avait pu voir. Et là, tout d'un coup, au début de la rue de la Barre, 300 mètres avant la fin de la manifestation, sans aucune raison, le camion se positionne face au cortège avec une petite ligne de gendarmes mobiles autour de lui. Et là, il bloque. À la fois le canon et les gendarmes mobiles bloquent, expliquent rien du tout, expliquent pas du tout pourquoi ils arrêtent. Et avant même que les manifestants soient arrivés au niveau de la ligne de flics, et bah bam, le canon allume ses phares et il envoie la sauce. Bon, c'est vrai que pour une fois qu'il avait le droit d'envoyer la sauce, il devait être un peu content. Mais tout le monde décide que bah ça suffit, on va où on veut, et c'est certainement pas un camion à eau ou 50 GM qui vont nous empêcher de manifester. Alors c'est d'un pas déterminé que les manifestants commencent à enfoncer le cordon de flics, et puis bah les GM, ils sont bien obligés de reculer quand même, parce qu'il y a 9000 personnes qui poussent. Sauf que le canon, lui, au début, je sais pas, il recule pas, il trouve pas la marche arrière, ou avec toutes ces grilles, il voit pas bien que ses copains GM sont en train de se faire repousser, mais que lui, il bouge pas, il finit par reculer, il commence à arroser tout le monde sur les côtés avec des petits jets sur les côtés. Les manifestants crient, on s'en fout, on est déjà mouillé. Mais là, pas drôle, c'est que, ben, il s'est pas reculé droit, le camion à eau, donc il commence à reculer bien sur la gauche. Et là, bah, dans la rue de la Barre, il y a des barrières qui empêchaient, du coup, les gens de partir. Donc le camion a commencé à presser les gens contre la barre, contre la barrière. Les gens pouvaient plus sortir, il envoyait l'eau en plus sur les côtés, donc il y avait des gens qui tombaient par terre, c'était un peu n'importe quoi, parce qu'il suffisait qu'il y ait une personne qui se fasse pas ramasser par ses copains ou ses copines, ou qui se fasse tout simplement rouler dessus par le camion, et ça aurait été quand même vraiment pas drôle. Mais heureusement, à force que les gens commencent à caillasser le camion, que les bâches renforcées arrivent et permettent de bloquer les flux sur les côtés, ben les gens arrivent à sortir et repousser les GM encore plus. Le camion finit par trouver la marche arrière, vraiment la deuxième vitesse, et recule complètement. Mais du coup, on se rend compte que vraiment, c'est pas une arme bien rigolote. Et alors, pour finir sur une note joyeuse, comment on peut se protéger de ces camions? Eh bien, les bâches renforcées ont prouvé leur utilité. Une bonne bâche renforcée tenue par des poignées, par 4 personnes, permet complètement de bloquer l'eau qui arrive dessus. Et puis sinon, ils sont vraiment tout blancs, ces camions. Alors, un petit coup de spray dessus, bah, ça fait du bien dans la tête, ça fait du bien quand on y voit, comme il y a quelqu'un qui a écrit à Cab sur le camion ce jeudi. Et puis, bah, sinon, si une voiture peut brûler, pourquoi pas un camion?
Et puis peut-être pour finir sur un peu là ces retours d'armes de la police, on peut quand même rappeler aussi le retour des voltigeurs qu'on voit depuis plus d'une semaine maintenant à Lyon, mais qu'on a vu aussi à Paris. Du coup, pour rappeler un peu c'est quoi les voltigeurs, c'est quand même des gens qui peuvent tuer, on l'a vu en 86. C'est,
des flics à moto du coup, ouais.
C'est des flics à moto, ouais, du coup, un qui conduit, un qui matraque. Ouais. Et c'est des armes extrêmement dangereuses et qu'on voit rôder autour de la place Bellecour à la fin de ces deux, trois dernières manifestations et qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'utilisation de ces pratiques qui rappellent malheureusement un peu des heures des manifestations et ouais, qui peuvent être extrêmement dangereuses pour les manifestants qui n'ont aucun moyen et les manifestantes qui n'ont pas de moyen de se défendre vis-à-vis de ça. Et que malheureusement, on voit refleurir un peu partout en France en ce moment.
Et ouais, du coup, tu faisais référence à Malekou Sekim qui avait été assassiné par des voltigeurs en 86 pendant des manifestations. Et du coup, pour continuer dans les petites références, on peut aussi rappeler que tous les flics sont des bâtards, que la police déteste tout le monde, que tout le monde déteste la police, mais que c'est pas qu'une histoire de personnes. Parce que là, quand on entend parler de canons en haut qui se mettent en ligne face à une manifestation, enfin, moi, ça me fait penser à des tests de nouvelles techniques policières. Comme les NAS ont été testés dans les banlieues, enfin les fermer tout un quartier, comme c'est testé, ça a été testé en 2010 à Bellecour et maintenant c'est totalement utilisé. Rappelez aussi que ces techniques qu'on va tester dans les banlieues ou pendant une manifestation pour réutiliser plusieurs fois, après elles sont exportées et que ça c'est une petite spécialité française. Hein, parce que les, enfin moi les dernières exportations de techniques de maintien de l'ordre que j'ai entendues c'était avec Ben Ali. On envoyait des experts et puis des armes aussi. Mais il y a aussi les Chiliens qui ont été formés. Enfin, faut savoir que les gens qui étaient jetés dans la mer depuis des hélicoptères, c'était des techniques qui ont été conseillées par des Français. Toutes les techniques de maintien de l'ordre au Chili, après le coup d'état contre Allende, venaient de techniques militaires et de maintien de l'ordre algériennes. Et voilà, c'est tout un business et une spécificité française. Donc on peut dire que tout le monde déteste la police et tout le monde déteste la France. Du coup, on part au national.
Canu Info.
Gendarmerie nationale, arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'ORS.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Alors, je vais essayer de vous faire un petit tour rapide de ce qui s'est passé hier dans quelques villes en France. En commençant par Tours, où 5000 personnes ont manifesté et ont prolongé le parcours autorisé. Ils ont bloqué le pont Mirabeau et envahi la gare. Dès le matin, deux lycées avaient déjà été bloqués par les élèves. Et à 10h, alors qu'un certain nombre de manifestants étaient déjà regroupés, ils ont été rejoints par un important cortège de cheminots en grève, d'étudiants et de lycéens. La manifestation a ensuite remonté le centre-ville, réunissant environ 5000 personnes dans une ambiance joyeuse et déterminée. Le cortège a ensuite été en direction de l'autoroute, mais les flics en tenue anti-émeute ont mis un coup d'arrêt en protégeant l'accès. Un face-à-face a suivi et les rangs des manifestants se sont progressivement dégarnis. Ils sont quand même repartis en cortège vers le sud, espérant pouvoir accéder à l'autoroute par un autre accès, mais les flics bloquaient de nouveau les accès, flashball au point. Le cortège s'est alors dirigé vers la gare dont les grilles avaient été baissées et la manifestation a pu parvenir jusqu'à un point du grillage de la gare qui était opportunément ouvert. Les manifestants et manifestantes se sont alors engouffrés dans cette entrée improvisée pour envahir les voies. Et une demi-heure plus tard, ils sont repartis en cortège. C'est donc une manif qui a duré un peu plus de 5 heures et qui a permis de rappeler que la détermination des opposants à la loi travail ne faiblissait pas. Ensuite, à Lille, hier, il y a eu une manifestation sauvage qui a déambulé dans une partie du centre-ville peu avant 21h. Elle a débuté devant le siège du PS qui, pour la deuxième fois en moins de 24 heures, a été pris pour cible. Quelques façades de banques et celles de Bouygues Télécom ont été taguées. Cher. Il y a eu des jets de peinture et des slogans hostiles à la police. Cher. Mais il y a quand même eu pas moins de 13 interpellations. Et à savoir qu'une personne qui a été arrêtée dans la semaine et qui a refusé sa comparution immédiate a été placée en mandat de dépôt jusqu'à son procès début juin. Donc on peut voir ici à Lille la volonté affichée de la justice de faire très peur. À Paris, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté. Dans un contexte de répression policière, judiciaire et administrative, le cortège autonome de tête n'avait pour autant jamais été aussi fourni, et ce, dans la détermination et l'entraide. Alors qu'en arrivant à Nation, ça semblait pas gagné, il n'y avait pas trop de monde, des contrôles de flics partout, des flics en TMEUT à l'avant, et puis au milieu du SO, des flics en civil. Mais en quelques minutes, le cortège autonome de tête a atteint le millier de personnes, et assez vite, voire même plusieurs milliers. Il y avait plein de banderoles, plein de pancartes, plein de slogans criés, et puis très vite, des actions ont été effectuées par plein de groupes différents, des pubs ont été arrachées ou taguées, des panneaux ont été pétés. Les banques, les agences immobilières, les agences d'intérim ou de gestion et toutes les autres anciennes capitalistes ont également été taguées, les vitrines pétées. Il y a eu un moment tellement de monde que les flics étaient un peu à la ramasse. Quelques affrontements ont quand même éclaté avec les CRS qui tentaient généralement un peu trop tard de protéger les banques ou les autres cibles. Les flics ont balancé de lacrymo et des grenades de désencerclement, mais n'ont pas réussi à couper la manif en deux. La manif s'est terminée comme prévu sur la place d'Italie. Mais là, malgré les prévisibles et désormais traditionnels affrontements avec la CRS, la place a vite été attaquée par la police à coups de grenades de désencerclement, de flashballs, de lacrymo, alors qu'il ne se passait rien et que les gens n'étaient pas tous encore arrivés. La place s'est donc un peu vidée peu à peu. À Rennes, plus de 2000 manifestants hier dans les rues. La manifestation a rejoint les centaines de manifestants qui bloquaient déjà la rocade à hauteur de la route de Lorient. Malgré les tentatives de dissuasion comme les fouilles, les contrôles d'identité, etc., la manifestation a réuni donc plus de 2000 jeunes salariés et elle s'est déroulée sans incident majeur. Un certain nombre de manifestants de la CGT ont bloqué la rocade pendant quelques heures avant de se faire éjecter assez violemment. Ça porte quand même à Rennes le nombre de blessés à 261 avec 49 hospitalisations et donc un jeune qui a perdu un œil. Et aussi hier à Rennes, 19 personnes ont été interpellées dans le métro. Elles ont été placées en garde à vue pour association de malfaiteurs, dégradation volontaire de biens destinés à l'utilité publique par des personnes agissant en réunion et le visage dissimulé.
Alors qu'elles agissaient pour le bien public.
Et ces personnes, malheureusement, elles encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. La plupart, elles ont refusé de décliner leur identité et de se soumettre à la prise d'empreintes digitales.
Et qu'est-ce qu'elles avaient fait ?
Eh bien, elles ont été prises un peu par... Enfin, les stations étaient en fait placées sous surveillance et du coup...
De métro, ouais.
Et donc, elles ont été interpellées en arrivant entre 6 et 7 heures du matin, alors qu'effectivement, elles étaient le visage dissimulé, mais elles
avaient défoncer les portiques qui permettaient...
Elles prévoyaient un sabotage de portiques.
Qui permettaient d'entrer... Elles voulaient faire entrer gratuitement tous les passagers. C'était une action de métro gratuit, quand même.
Oui. Et puis, ensuite, à Lorient, il y a eu 1500 personnes et la manif, elle est passée devant le commissariat pour une prise de parole en soutien à un lycéen convoqué au même moment, qui était accusé d'être le meneur d'une action collective lycéenne en mars contre la loi travail, accusé d'avoir forcé une porte d'un lycée et d'avoir vidé des extincteurs. La manif a ensuite convergé jusqu'aux barricades, bloquant l'accès à un dépôt pétrolier. L'appel a été lancé à participer aux barricades par roulement. Il est prévu qu'ils tiennent le lieu jusqu'au retrait de la loi. Mais beaucoup pensent à une intervention policière là dans le week-end parce que la pénurie d'essence commence. Donc il y a une barricade qui est tenue par les dockers, une autre par des métallos et une autre par un collectif d'interpro. Donc il y a un appel à soutien. À Nantes, hier, la manifestation était interdite par le préfet. La pression policière risquait donc d'être forte, et ça a été le cas, parce que Nantes a bravé l'interdiction de manifester, mais la rafle policière a été sans précédent. Il y a eu plus de 70 manifestants interpellés et emmenés au commissariat. Et puis à Nancy, oui, je vais vous parler de Nancy, parce qu'à Nancy, il y a eu donc une manifestation, puis une manifestation sauvage. Et ça, à Nancy, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, et ça fait plaisir. Il y a aussi eu le matin des barrages filtrants et une opération escargot sur l'autoroute. Voilà pour un petit tour non exhaustif.
Et hop, c'est parti, du coup, pour les prochains coups, comment faire grève si je suis isolé? Donc un petit article de Paris Lutte Info qui a aussi été relayé sur Rebellion et qui donne des petits cas pratiques, donc je vais le faire très vite, vous pouvez le retrouver sur Paris Lutte Info ou Rebellion. Donc cas numéro 1, je travaille dans le privé et je suis seul à faire grève. Alors soit, dans ce cas-là, il y a un appel national ou local dans la branche dans laquelle je travaille et là je peux me déclarer en grève même seul. Et si c'est pas le cas, alors moi j'ai appris ça et c'est assez génial, s'il n'y a pas d'appel pour faire grève quand on est tout seul, et ben il suffit de trouver, et s'il n'y a pas d'appel déposé, un deuxième ou une deuxième petite camarade, et là hop, ça passe dans l'action collective et on peut faire grève. Donc voilà, à deux, c'est une action collective vis-à-vis la loi du travail. Et donc dans les deux cas, donc soit qu'il y ait un appel ou qu'il n'y en ait pas, faut transmettre les revendications à son employeur. Il faut que ce soit des revendications d'ordre syndical et pas que politique. Après, il détaille un petit peu les différents cas de contrat de travail qu'on peut avoir dans le privé, donc CDI, CDD, intérim, période d'essai, apprentissage en stage. Et ce qu'il dit, en fait, le copain syndicaliste qui parle dans l'article, c'est que dans tous les cas, on a le droit de grève et que, bien sûr, après, quand on est en CDI, on est plus protégé par rapport à ce droit et que, forcément, quand on est en intérim, bah, si on fait grève, on peut s'opposer à des menaces de l'employeur. Mais qu'en tout cas, s'il y a des menaces qui sont autour du droit de grève, c'est-à-dire que si l'employeur dit « si tu recommences à faire grève, je te reprends pas en mission d'intérim » ou « je te reprends pas en CDD », c'est pas mal de garder des traces de tout ça parce que c'est une menace qui est interdite. Donc voilà, enfin, ça protège pas non plus de tout ce qui est mis au placard dissimulé ou refus de refaire un CDD pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ils ont pas le droit de le dire pour le droit de grève. Après, cas numéro 2, si tu es seul et que tu es dans le public. Alors, il faut qu'il y ait une organisation représentative nationalement qui ait déposé un préavis. Voilà. Au minimum, il faut que tu aies déposé un préavis, pardon, cette organisation 5 jours avant le début de la grève, stipulant les revendications professionnelles, la date, l'heure et le champ géographique. Si jamais tu as la chance d'être dans une commune de moins de 10 000 habitants, eh ben, tu n'as pas besoin de ce préavis. Et dans certains secteurs, alors comme les services hospitaliers, il y a un service minimum. Donc voilà, ça faut voir du coup en déclarant si il y a une obligation d'assurer la continuité du service. Et pour les enseignants des écoles publiques maternelles élémentaires, il y a une obligation de service aussi. Donc il faut se déclarer à l'inspection académique au moins 48 heures avant le droit de grève. Et si malgré tout ça, tu n'arrives pas à faire grève et que tu es isolé, alors déjà dans tous les cas, si tu peux au moins aller tchatcher avec des gens des syndicats ou d'autres camarades pour essayer de faire des trucs collectivement, et si tu peux rien faire dans ton taf, et bah comme l'ont montré les dernières semaines, il y a plein de petits trucs à faire. Il y a des œufs de peinture à aller jeter la nuit avec quelques copains sur le MEDEF, les voitures de flics souvent ça traîne dans la rue et puis il y a personne à côté, les comicos de police municipale, bah voilà, il y a des caméras mais il y a personne à côté, les agences d'intérim, les pôles emploi et toutes ces petites joyeusetés que si on t'empêche de faire grève, tu peux aller décharger ta frustration sur ces belles cibles.
Et toujours sur le mouvement qui fait trembler la France, un petit retour sur le buzz médiatique de mercredi, à savoir l'attaque, justement, d'une voiture de police.
Oh, oh là 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 là,
oh putain.
Mais pas les vitres, hein, toute la voiture.
Ouais, ceci n'engage que moi, puisque j'ai écrit ceci il y a pas longtemps, quelques heures. L'information de masse qui capte l'attention du spectateur distrait est, ces derniers jours, plus que jamais univoque. Il n'existe évidemment pour le gouvernement qu'une même façon de montrer la lutte qui se joue aujourd'hui. Images d'affrontement déclinées sur de multiples supports, formats, tons. On pourrait aussi dire que les barricades n'ont que deux côtés. On savait déjà lequel disposait des caméras TV et des dépêches de l'AFP. Mercredi 18 mai, à Paris et dans quelques autres villes de France, la police manifestait son mécontentement face à la haine anti-flic qu'elle subit depuis plus de 2 mois. Il est difficile de dire qu'elle n'a pas raison sur le constat au moins. Le slogan « Tout le monde déteste la police » étant régulièrement repris depuis le mois de mars. Il faudrait ici rappeler une évidence qui n'a pas sa place dans la vulgate des grands médias BFM TV, France Inter, j'en passe. Si la police est tant détestée, c'est qu'elle est la branche armée d'un gouvernement qui pilote désormais son bateau comme une galère. à coups de fouet, de politique raciste, d'état d'urgence ou de passage en force au Parlement, le 49-3 par exemple. La police est toujours la dernière vitrine qui protège matériellement le gouvernement. C'est ce que les manifestants des cortèges de tête de ces deux derniers mois ont bien compris, tentant, manifestation après manifestation, de déborder les dispositifs policiers, c'est-à-dire de faire manifestation, de s'en prendre directement au gouvernement. Autour de la place de la République, où se tenaient des policiers indignés accompagnés de députés du Front National, quelques centaines de militants se sont donné rendez-vous pour nasser la police et dénoncer une jérémiade plutôt mal placée de la part de ceux qui acceptent de nous gazer, de nous donner des coups, de nous tirer dessus, de nous ficher, quelquefois aussi de nous tuer au nom de la protection de l'ordre des choses. Ce mercredi matin, à 10h, la préfecture de police de Paris annonçait l'interdiction de manifester à celles et ceux qui entendaient dénoncer la mascarade policière. Après que les centaines de manifestants aient été dispersés par des gaz, une partie d'entre eux décide un départ en manifestation sauvage. Sur le quai du canal Saint-Martin, coincé dans un bouchon, se trouve la voiture de police dont on a tant parlé le soir et le lendemain, celle qui va finir carbonisée. J'ai vu les images hier, c'est un peu tard peut-être, de ceux qui, d'un seul corps, se jettent dessus pour faire tomber les vitres du véhicule et y introduire un fumigène. J'ai vu la sortie du conducteur et un homme le frapper d'un long bâton flexible. On pourra dire que les matraques, ça fait beaucoup plus mal, que les gaz, c'est pire, que les flics, eux, ne se privent pas de nous frapper dès qu'ils le peuvent, et que ces images, on les voit beaucoup moins circuler sur les écrans. On aura sans doute raison de le rappeler, mais on n'aura pas beaucoup avancé. La scène est violente, c'est évident. L'image est forte, notamment parce qu'on comprend vite que le flic se fait frapper pour ce qu'il est et ce qu'il représente. Qu'est-ce qui fait que cette image est si télégénique, qu'elle fonctionne et captive autant toutes et tous, gouvernants comme journalistes, spectateurs comme manifestantes, un temps en tout cas, avant qu'un avion qui vole vers l'Égypte ne tombe du ciel le lendemain? C'est peut-être que cette image montre plus clairement ce qui se passe en France depuis au moins 2 mois. Une offensive déterminée contre le gouvernement et ses fondements. Pour que l'État moderne émerge, il a dû au préalable s'occuper de la question de la violence, en faire son monopole. Pour le dire autrement, l'État s'affirme lorsque la seule violence légitime devient la sienne. Toutes les autres formes doivent être vaincues, et à chaque fois qu'une autre force émerge, l'État ne peut que lui déclarer la guerre, car elle menace directement son existence. C'est ainsi qu'il faut comprendre la fausse accusation de tentative d'homicide, avec préméditation, requise contre les assaillants de mercredi, et l'enquête qui va s'en suivre. En réalité, ce qui commença à s'amorcer à la Renaissance, la constitution de la violence comme monopole d'État, mit plusieurs siècles à faire civilisation, c'est-à-dire à devenir une évidence que le citoyen du XXIe siècle n'a plus à questionner. Comment comprendre autrement le plébiscite de l'état d'urgence au café du commerce et sur le micro-trottoir à la sortie de l'Apple Store ? C'est que l'antiterrorisme, érigé en technique de gouvernement, n'a rien d'insupportable pour celles et ceux qui ont déjà accepté tout le reste, et en premier lieu, d'être des corps désarmés et en permanence contrôlés. Or, ce que l'on voit en France ces 2 derniers mois, c'est que le nombre de celles et ceux qui sont prêts à s'opposer à ce monde ne cesse de grandir. Des solidarités nouvelles se créent, des gens qui s'ignoraient se découvrent, des façons différentes de manifester vivent ensemble. La peur change de camp et le monopole policier de la violence est contesté. Chaque nouvelle manifestation le montre. La voiture incendiée n'en est qu'un nouvel exemple. Il ne s'agit donc pas de condamner l'incendie de cette voiture, quoi qu'on puisse quand même se questionner sur l'utilité du lynchage. Il ne s'agit pas non plus de faire l'apologie de la violence comme le dernier des nihilistes ou de prendre ce petit éclat de 3 ou 4 personnes pour une grande bataille. Laissons la radicalité aux radicaux et l'indignation à ceux qui n'ont pas encore senti le sol vibrer sous leurs pieds. Nul besoin d'être psychologue des foules pour comprendre ce qui anime ce geste, ni d'être un observateur attentif des médias pour voir ce qui se joue derrière cette médiation. Il s'agit plutôt aujourd'hui de savoir se saisir collectivement de ce que l'on n'a jamais été, des humains qui décident ensemble de vivre différemment, en se donnant les moyens de notre réussite, tout en essayant le plus possible de ne pas être ce que tout le monde déteste dans la police. Voilà. Et petit retour sur le traitement médiatique des violences.
Et ben, du comment coup, trouver après, des alternatives. Un texte qui, a qui jongle entre force politique et poésie. Je vais avoir un retour beaucoup plus terre à terre qui est plutôt en forme de coup de gueule et peut-être aussi un peu en mode brainstorming, de se poser des questions de comment est-ce que médiatiquement on traite ce qu'on appelle mouvement social, ce que d'autres personnes appellent lutte émancipatrice. C'est sûr que ça, on ne va pas lire exactement dans les mêmes médias. Et comment est-ce que c'est traité par les médias dits dominants? Et comme tu l'as dit, ça peut aller de BFM à France Inter, voire France Culture. Ou, enfin bref, ça peut être la radio, ça peut être la télé, ça peut être les journaux papier. Ça va poser la question un peu de comment est-ce qu'on gère tous ces trucs d'information sur le mouvement. Alors du coup, moi je trouve qu'il y a plusieurs structures et ou personnes qui gèrent les informations. Il y a ce qu'on appelle les médias. Il y a les personnes, et notamment par les réseaux sociaux, et que ce soit des réseaux d'entre-soi, par tes groupes de potes, par aussi tout ce que tu vas rendre public sur Internet ou sur d'autres types de supports. Et il y a peut-être aussi un peu un entre-deux, comme des médias alternatifs, comme la Radio Canu. Vous êtes en train d'écouter les Canu Info, et comme vous l'entendez là depuis 19h, mais aussi les Canu Info tous les soirs à 19h, c'est quand même vraiment un positionnement qui essaye de prendre part à la lutte, et qui est aussi une des manières de relayer des infos. Et derrière info, ça peut être des textes, des images, des vidéos, de l'audio. Et tout ça, ça fait un peu les médias. Et c'est un peu aussi tout ce qui donne une présence publique, on peut dire, je trouve, à ce qui se passe en termes de mouvement social, lutte émancipatrice de ce qui se passe. Et donc, on va revenir plus trop maintenant, parce qu'on n'a plus tellement de temps, mais comme toi, tu l'as fait aussi, sur comment BFM TV ou France Inter, mais même Rue 89 Lyon, par exemple, traite le mouvement social. Et c'est vrai que là, on vous a beaucoup parlé des manifestations de mardi et de jeudi, mais que, par exemple, on a été très choqués de lire mercredi les articles de Rue 89 sur les manifs des flics, et que c'était vraiment en mode pro-flic, et que, c'est choquant dans un rapport de force qui existe actuellement dans le mouvement social. Et que là, la question, c'est pas tant la question d'une pratique salariale qui peut être compliquée, c'est une question de comment est-ce qu'on se positionne. Et que, par exemple, c'est des médias qui oublient complètement de parler des sympathies frontistes des flics, qui oublient complètement de parler de l'usage controversé des flashballs et assimilés, qui sont quand même les gaz lacrymogènes interdits en temps de guerre, qui oublient de parler de l'état d'urgence, qui oublient de parler des charges systématiques et gratuites de la part des flics, qui oublient de parler de la présence, comme tu as dit, et des canons à eau et des voltigeurs. Et du coup, c'est aussi un traitement médiatique qui est extrêmement choquant. Si on rajoute à ça qu'on nous parle qu'à chaque fois, il y a des gens en marge des manifestations, alors qu'on voit sur tous les médias, vidéos et photos, que les gens sont dans la manifestation et sont la manifestation, en fait. Et il y a juste comme ça, là, des petits usages de vocabulaire qui sont d'une condescendance, mais genre infecte. Et quand on parle jamais de revendications politiques, enfin, c'est quand même vraiment... enfin, on pouvait parler 4 heures de comment c'est déprimant que les médias dominants, ils parlent de ça. Mais ces médias dominants aussi, par exemple, ils ont leurs textes qui sont ridicules de mensonges et de malhonnêteté. Mais ils ont aussi des photos, ils ont aussi des vidéos. Et ça, c'est un peu d'autres questions. Et sur ces questions-là, ça pose la question de comment est-ce que on parle de quelque chose, mais aussi qui est-ce qu'on implique dedans et qu'est-ce qu'on risque à faire ça. Et par exemple, dans les médias, qu'ils soient locaux ou nationaux, et que ce soit en images ou en vidéo, ça montre beaucoup de personnes. Et je pense qu'après 2 mois de mouvement social, on peut arrêter de penser que parce qu'on n'a rien fait, on ne va pas se faire arrêter. Et qu'on a bien compris que la violence policière fonctionnait pas comme ça, et que le fait même de manifester pouvait être prétexte à arrestation, voire à condamnation. Puisque c'est comme ça que maintenant le gouvernement présente les choses. On a dit à beaucoup de personnes, dont par exemple des personnes asthmatiques à qui on a retiré les mentonines ou les masques à gaz, qu'on ne pouvait pas manifester si on était handicapé, par exemple. Enfin, c'est des choses quand même vraiment folles qui se passent dans les manifestations aujourd'hui. Et c'est des gens qu'on n'hésite pas à arrêter non plus. Et que c'est pas anodin de montrer des photos de gens qui manifestent aujourd'hui. C'est triste à dire. Mais que la question se joue pas là. Et si les médias dominants le font, ça se fait aussi énormément par les réseaux sociaux et la multiplication des technologies. Et par exemple, sur Facebook, sur Twitter, sur Periscope, il y a beaucoup de photos de gens non floutés, ça veut dire qu'on voit faire des actions légales ou illégales, et j'insiste sur le fait que c'est pas forcément le fait que ce soit illégal que ce soit grave. Et ça pose un peu la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça? À qui on parle quand on balance ce genre de photos, ce genre de vidéos? C'est pas la même chose que balancer des informations, par exemple, de dire, ah tiens, je vous appelle à tel rassemblement ou j'appelle à telle manifestation. Il y a l'écrit, enfin, qui est pas la même chose. Et là, c'est est-ce qu'on cite des gens? Et la question à se poser pour moi, c'est un peu pour qui est-ce qu'on fait ça et à qui ça sert et à quoi ça sert? Et que c'est des questions vraiment importantes à se poser parce que ça peut aussi porter beaucoup préjudice à des gens et porter beaucoup préjudice à des luttes de manière plus structurelle ou des gens qui peuvent avoir peur. Et je crois que je suis assez étonnée de voir en première ligne de manif parfois autant de smartphones et ou d'enregistreurs et ou de caméras que de personnes qui luttent actuellement. Et je pense que c'est important de rappeler que, en tout cas pour moi, à ce moment-là, c'est l'action qui est primordiale et c'est pas sa médiatisation. Et c'est quelque chose d'important aussi, qu'il faut faire attention aux gens qui médiatisent ça, ne mettent pas en danger les gens. Et ça, c'est sur plusieurs aspects, pas mettre en danger par leur présence physique, que à vouloir filmer, photographier et ou prendre du son et ou juste avoir des informations. Mais en étant spectateur, on peut mettre en danger des gens. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on relaie ça? Et que l'immédiateté de l'information, elle peut être très très dommageable à des prises de conscience du mouvement. Et alors du coup, par rapport à ça, au niveau national, il y a pas mal de textes qui sont sortis sur Internet, à la fois parfois pro-médias, en promouvant des bonnes vidéos qui, par exemple, feraient attention. Mais moi, je trouve que c'est toujours un peu compliqué. À la fois des textes qui sont vraiment anti-médias, et notamment anti-vidéo et anti-photo. Et ça pose plutôt pour moi la question de la responsabilisation et surtout vraiment du but. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et on aimerait quand même très très rapidement ici rappeler du coup qu'il y a des médias alternatifs qui essayent de prendre en compte, même si c'est toujours parfois avec des écueils ces questions-là. Bon, en premier lieu, Radio Canu quand même. Que par exemple, je trouve venir parler à la radio, ça peut être une manière de promouvoir des luttes. Ça peut être une chouette manière de partager ses expériences et ça peut être un outil vraiment efficace et qui fait partie du mouvement. Vous avez aussi beaucoup de médias internet, comme par exemple les réseaux multimédia libres. Mais par exemple, des pages Facebook, ça peut servir à ça si elles sont bien utilisées. Et par exemple, la page Nantes Révoltée à Nantes, bah, c'est aussi un chouette usage de Facebook. Du coup, c'est pas un discours anti-réseaux sociaux, c'est plus vraiment un discours raisonné sur les réseaux sociaux. Et pour finir, je voulais dire que du coup, ce truc-là, là, des médias et de la survisibilisation des gens en termes d'image, c'était un truc qui pouvait pas se régler que dans les médias, mais que c'était aux manifestantes et aux manifestants de faire attention. Et peut-être aussi de réfléchir à comment est-ce qu'ils allaient en manifestation. Et que oui, on a arrêté des gens parce qu'ils avaient des fils qui sortaient de leurs chaussures et qu'ils avaient les mêmes chaussures quand on les a arrêtés. Et que ça arrive, ça. Et que... Voilà, c'est pas toujours parce que vous avez posé une Kalachnikov que ça arrive. Et que c'est un peu un truc, c'est triste, mais c'est un truc de responsabilité dans un monde là de la technologie et du tout surveiller tout le temps, de comprendre que ben c'est important de faire attention à ça, c'est important de pas forcément avoir un polo fluo. Et que s'habiller en noir, ça peut être une protection et ça veut pas dire que vous vous positionnez comme un radical black bloc.
Et on peut rappeler aussi, parce que tu l'as pas fait, mais qu'on peut suivre tout ce qui se passe depuis ces deux derniers mois et de manière plus générale sur notamment aussi Rebellion et continuer à écouter Radio Canu parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on fait l'émission en cagoule.
Et petite précision lexicale, du coup Périscope, c'est une, pour ceux qui ne sont pas encore devenus l'appendice électronique que nous avons dans nos mains et bientôt dans nos yeux directement greffés, Périscope c'est une petite application qui permet en fait aux gens qui l'utilisent que quand ils filment, ce soit directement mis en ligne, donc ils peuvent choisir soit que ce soit partagé à quelques-uns des personnes qu'ils ont choisies, soit à tout le monde, et souvent les gens ils font une chaîne, comme ça ils filment ce qui se passe, et tout le monde peut voir, et dans tout le monde, il y a quoi? Il y a des flics et des connards. Voilà. Et deuxième petite précision pour les guignols qui filment et qui ne passent pas directement en ligne mais qui enregistrent sur leur smartphone, leur caméra ou leur appareil photo.
On peut leur voler.
On peut leur voler. Et aussi souvent, c'est quoi ces gens? Bah, c'est des cibles policières parce qu'on remarque que les flics, ils passent une grande partie du temps à filmer avec des caméras HD. Donc quand on est un guignol qui filme tout de très près dans un cortège, on devient une cible de la police. Donc voilà, pensez, si vous pouvez pas penser aux autres parce que vous êtes trop guignol, pensez au moins à vous et écoutez ce fabuleux jingle. International, international, international,
international, international. Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements. mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et voilà ce soir, point de gaz de schiste, mais double ration de Kurdistan. Mais avant le Kurdistan, on va au Brésil, parce que le Brésil connaît actuellement une crise politique majeure que certains et certaines qualifient même de coup d'État. Donc tout commence, mais tout commence finalement, figure-toi bien, en mars, lorsque l'ex-président Lula est nommé au gouvernement. Mais il est accusé, en fait, à ce moment-là, de vouloir échapper à un procès en justice de corruption contre... Enfin, un procès, voilà, de corruption, finalement. Et pour ses partisans, eh ben, c'était, au lieu de vouloir échapper à la justice, c'était plutôt un moyen de redonner un coup de barre à gauche dans un... Et voilà. Dans un... Oui, parce que l'eau, en ce moment, tout ça, ça nous travaille beaucoup. Et du coup, pour voilà, dans un agenda politique, dans une politique brésilienne qui était jugée jusque-là un petit peu trop et pas forcément à tort libérale. Donc tout ça en fait, ce procès contre Lula, ça commence en fait en 2014. On a découvert un réseau de placement illégal d'argent à l'étranger, voilà, dans lequel à peu près tous les politiques brésiliens avaient trempé. Il y a ce qu'on appelle l'opération Lava Jato, qui va permettre en fait de... C'est la plus grande opération anticorruption jamais menée au Brésil. Et donc c'est effectivement quelque chose d'assez classe parce que bah voilà quoi, ça permet de lutter contre la corruption, mais la personne qui le juge qui met en place cette procédure anti-corruption a des pratiques un petit peu bizarres, comme par exemple diffuser totalement des éléments de l'instruction aux médias et aux réseaux sociaux, donc comme quoi les guignols qui filment mais ils diffusent en plus leurs bêtises. Mais du coup ça fait qu'il y a des gens qui sont complètement cloués au pilori en fait avant même d'être passés au tribunal. Et aussi le problème de cette campagne anticorruption, c'est qu'elle touche que le Parti des Travailleurs et pas les autres partis politiques. Du coup, c'est pas forcément contre la corruption en général, mais contre la corruption du PT. Et puis, en plus, on se permet un petit peu voilà des écarts de la légalité, d'arrêter des gens avant qu'ils soient mis avant qu'ils soient mis en accusation, un petit peu histoire de les forcer un petit peu à reconnaître leur tort. Et du coup, il y a un petit peu, voilà, du coup, les pour et les contre Lula, les contre le PT, les contre corruption, les pro Lula, les pro PT, machin, qui s'emparent de la rue. Et on se rend compte que les manifestations contre le gouvernement sont certes contre la corruption, mais c'est aussi des manifestations qui sont extrêmement conservatrices, avec dans lequel il y a des éléments d'extrême droite, il y a des gens qui sont... font partie des classes moyennes supérieures qui sont attachées à leurs privilèges et qui sont un petit peu effrayées par voilà, du coup, tout ce que propose un petit peu le PT, même s'il y a plein de choses à redire sur la politique du PT, mais qui amène certes une réduction des inégalités. Puis aussi on a super des partisans du retour de la dictature militaire aux périodes bénies du Brésil. Et il y a aussi dedans des gens qui sont juste excédés un petit peu par ces scandales de corruption à répétition. Et donc là-dessus, Dilma, l'ex-actuel président du Brésil, a fait des manipulations fiscales en fait pour maquiller une partie du déficit de 2015 pour pouvoir être réélu, et du coup, elle est obligée de la faire reporter sur 2016. Mais donc ça, c'est un truc que tous les gouvernements brésiliens depuis 30 ans font, et que c'est pas, enfin, depuis jusque-là, tout le monde s'en tape, voilà, quoi, ils font ça, tout le monde le sait, c'est une espèce de secret de polichinelle, un peu comme ça. Mais donc là, il y a ça, plus une récession économique, et en plus le scandale de la Petrobras, qui est l'agence pétrolière brésilienne, un peu l'équivalent de Total en France. Et du coup, là, on se rend compte que tous les politiques brésilien avait mis les mains dans la caisse de la Petrobras. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le 17 avril, il y a à la fois une espèce de coalition des évangélistes, des représentants des grands propriétaires terriens, des représentants des personnes de l'industrie de l'armement, et puis des représentants de l'agro-business, voilà, de tous les gens qui vont un petit peu déboîter la forêt amazonienne, ce qu'on appelle les BBB pour bœuf, balle, bible. Se sont succédés au micro du coup pour demander au micro de la chambre des députés pour demander la destitution de Dilma. Et du coup plutôt que de faire des discours sur la corruption, la Petrobras, tout ça, ils ont plutôt invoqué Dieu, la famille, un petit peu la mémoire d'anciennes personnes qui étaient certes des gros hommes politiques connus brésiliens, mais qui étaient surtout des anciens tortionnaires de la dictature militaire. Et on a complètement oublié un petit peu le motif à la base de la demande de destitution. Et du coup, la preuve, c'est que le chef de file même de cette destitution, et il s'appelle Eduardo Cunha, et il a été lui-même
entre-temps expulsé de oh là 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 là, il me reste 40 secondes. Donc le mec, il a été expulsé de le type, il était normalement était censé être un il pourfendait Dilma pour être en corruption alors que lui-même entre-temps s'est fait virer pour corruption. Et du coup, bah c'est un autre qui l'a remplacé, Michel Temer, et qui a viré tous les ministres femmes et il y a plus de ministres noirs et il a nommé à la place 7 ministres qui sont eux-mêmes accusés de corruption. Donc voilà. C'est super. Donc c'est en fait c'est surtout la droite brésilienne qui savait qu'elle gagnerait pas dans les urnes et du coup elle s'est dit eh ben si je vire Dilma eh ben du coup je peux faire profiter de ça pour pouvoir prendre le pouvoir. Et en même temps, on peut pas s'étonner que le PT, qui a refusé d'affronter l'oligarchie économique et médiatique depuis 14 ans, se reprenne un retour de bâton dans la gueule. Mais du coup, merci.
On est très désolé de pas pouvoir finir notre agenda comme souvent, mais par exemple, vous pourrez retrouver les news du Kurdistan sur notre site internet en podcast qu'on pourra pas vous passer maintenant. Et pour l'agenda, on vous invite à regarder le magnifique site rebellion.info pour savoir ce qui se passe dans les jours qui viennent.
J'ouvre le micro comme ça on m'entend, c'est pratique. Pour le site, il suffit de taper Canu Info. Du coup, on est le Canu Info du vendredi. Vous retrouvez ça en ligne, Canu Info vendredi, sur un moteur de recherche totalitaire. Et vous nous retrouverez. On vous laisse avec
Noise Pollution.
Et surtout, n'oubliez pas, paniquez pas.
Niquez tout.